franceinter.fr.
Et voici la revue de presse avec Julie Pietri. Bonjour Julie.
Bonjour.
Dans la presse, une Russie qui n'arrive plus à joindre les deux bouts, c'est en une de la Croix ce matin.
C'est intenable, raconte un électricien à Moscou. J'ai l'impression d'être tombé dans un piège. Mes revenus sont divisés par deux, les prix doublent. Si l'un de mes gamins tombe malade, c'est fini. Toujours à Moscou, une jeune juriste explique que depuis l'annexion de la Crimée, c'est le grand écart à la maison. Habituée aux vacances lointaines, aux week-ends shopping à Paris ou à Londres, elle compare aujourd'hui le prix des carottes. Non, analyse la Croix, la Russie ne sort pas indemne de la crise ukrainienne. 16% des Russes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. 23 millions de personnes, 3 millions de plus rien que depuis le début de l'année. Salaire en baisse, prix en hausse. Depuis un an, viandes européennes, produits laitiers européens, fruits et légumes européens sont interdits de territoire. Embargo russe en réaction aux sanctions de l'Union. Mais ces produits représentaient la moitié de la consommation en Russie et forcément, le pays a du mal à encaisser. Du mal à encaisser aussi que la nourriture qui entre illégalement soit détruite. Des tonnes de pêche et de nectarines broyées, des milliers de carcasses de bœufs brûlés. Gabji Gachi, en Russie, voix de la société civile et personnalité politique, commence à tiquer, assure le journal. La bourse chinoise, elle, joue aux montagnes russes et inquiète cette fois le Figaro ce matin. Industrie et exportation à la peine, rôle d'atelier du monde contesté, elle agite la panne économique chinoise. Panne économique à l'échelle de la Chine, 100 ans. 7% de croissance attendue quand même à la fin de l'année, meilleur taux au monde, mais le pire pour la Chine depuis 25 ans. Le monde entier scrute le ralentissement de la deuxième économie mondiale, analyse le quotidien qui ajoute un coup de frein brutal pourrait déclencher une nouvelle récession mondiale.
Julie a un visage d'un jeune homme blond aux yeux clairs dans le New Yorker, daté d'aujourd'hui.
The Cop, le flic, titre laconique de cet incroyable article dont vous avez peut-être déjà lu des extraits publiés ces derniers jours dans la presse française. Ce flic, c'est donc Darren Wilson, l'homme qui a abattu il y a un an à Ferguson Michael Brown, adolescent noir, qui ne portait pas d'armes et qui est devenu jusqu'à aujourd'hui un symbole aux États-Unis. Sur la photo choisie par le magazine américain, Darren Wilson les baisse, ses yeux clairs. En regardant bien son cou, on pourrait se dire qu'il est peut-être un peu nerveux. Il a plusieurs petites entailles, sans doute des blessures de rasage, une main qui tremble beaucoup peut-être. En lisant l'article, on en doute. Il a perdu son job, mais s'est acheté une nouvelle maison, payée avec l'argent récolté par ses soutiens, une coquette somme de 500 000 dollars. Il n'a pas lu le rapport du département de justice sur le racisme à Ferguson. Je n'en ai aucune envie, je ne vais pas continuer à vivre dans le passé. Est-ce que je pense à qui Michael Brown était en tant que personne? Pas vraiment. À ce stade, de toute façon, ça n'a plus d'importance.
Tarnac, l'arnaque dans la presse également ce matin. Julie se met à culpa de Libération.
Le 11 novembre 2008, une vingtaine de personnes sont arrêtées entre Paris, Rouen et le petit village de Tarnac. 150 policiers mobilisés. En quelques heures, le groupe de Tarnac accusé de sabotage de ligne SNCF devient groupe terroriste d'ultra-gauche. Seulement voilà, 7 ans après, une juge a rejeté la circonstance aggravante d'entreprise terroriste et Libération rappelle le traitement médiatique de l'époque. Le Point déroule le récit de l'enquête en reprenant mot pour mot la version policière. Le Figaro parle d'apprentis terroristes. Le Nouvel Obs de guérilleros du rail et Libé titre « Quand l'ultra-gauche déraille ». Finalement, ces terroristes ne seraient que de vulgaires malfaiteurs, des révolutionnaires certes, pas des terroristes. Dans son édito, Libé conclut « S'il est un enseignement à tirer de cette affaire Tarnac, c'est qu'il faut toujours s'armer de prudence quand on vient à utiliser le mot « terrorisme ». On connaît la méthode, se saisir d'un fait divers pour en user, jouer de la peur pour mieux verrouiller leur arsenal judiciaire et répressif, c'est ce qu'ont fait Nicolas Sarkozy et Michel Alliot-Marie à l'époque. Aujourd'hui, même si la menace du terrorisme islamiste est bien plus réelle, le gouvernement Valls n'a pas hésité, lui non plus, à jouer sur la peur pour faire voté il y a quelques mois sa loi sur le renseignement. Qu'est-ce qui fait le rebelle aujourd'hui sans transition? Le cheveu long est-il toujours un bon indice? Cheveux vous le dire, promet plus légèrement encore Libération dans son carnet d'été, où l'on se souvient que le cheveu long était symbole d'opposition dans les années 60, attribut des insoumis, mais qu'il a aussi été symbole de royauté chez les Francs. Aujourd'hui, si les zadistes ne sont pas avares en dreads, les hipsters affichent de longs actif, dépolitisé. Tout se perd. S'il a le cheveu qui se fait la malle progressivement, lui a claqué la porte brutalement et il impressionne, il fascine vos journaux ce matin. Prénom Marcelo, nom Bielsa, surnom El Loco. Samedi soir, donc, l'Argentin a démissionné de son poste d'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Il fait la une de la Provence ce matin qui se demande bien comment l'OM va réagir. Il fait aussi la une de l'Équipe qui raconte les dessous d'une séparation. Une réunion l'aurait échaudée. Lui qui touchait 300 000 euros par mois l'an dernier voulait récupérer visiblement les avantages de membres du staff sur le départ. Leur voiture de fonction, indemnité de loyer, billets d'avion, téléphone. Mais ce ne serait qu'un détail selon l'Équipe qui questionne. Bielsa aurait-il en fait juste cherché un prétexte? Bielsa et sa glacière détrônent en tout cas Camille Lacour et sa médaille d'or sur 50 mètres d'eau aux mondiaux de natation, reléguée en page 12 du quotidien sportif. Pour être honnête, le visage du nageur français est bien là, en une de l'Équipe, deux fois même. L'une des photos est dans un article, l'autre dans une publicité. Car vous les avez peut-être remarquées, ces pubs mettant en scène les champions sur vos écrans de télé ce week-end avec ce message. Ce qui compte en fait, c'est bien leur préparation. Florent Manaudou a bien besoin de son gel douche avec lequel il se masse langoureusement le corps. À en croire la pub en une de l'Équipe, la compote serait aussi essentielle au Lacour, Manaudou et autres gilots.
Et bien voilà, sans blague, c'était la revue de presse avec Julie Pietri. Il est 8h37.